RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Info Week-end, c'est avec vous, Lionel Sabot.
François Bayrou décale son déplacement à Mayotte de 24 heures. Le chef du gouvernement est finalement attendu demain soir sur l'archipel de l'océan Indien. Les loyalistes et le rassemblement appellent de nouveau à constituer dans les plus brefs délais un gouvernement d'intérêt général. L'État n'a versé qu'une partie des 27 milliards d'aides d'urgence. L'avertissement des forces de l'ordre quant à l'usage sur la voie publique de véhicules customisés, la pratique est interdite et les contrevenants s'exposent à des amendes et à des mesures exemplaires. La multiplication des incidents sur les câbles sous-marins en mer Baltique, l'Union européenne pointe du doigt la flotte dite fantôme de la Russie. Le sport et le tennis avec le coup d'envoi ce matin du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro. Les premiers matchs de qualification sont prévus à 10h30. Et puis la voile et la Sydney-Hobart qui se poursuit. Les Calédoniens à bord de Pulpito sont ce matin un peu plus de 300 km de la ligne d'arrivée en Tasmanie. Et soyez les bienvenus dans ce journal. François Bayrou reporte donc son déplacement à Mayotte d'une journée. Le Premier ministre est désormais attendu demain soir pour nous dans l'archipel de l'océan Indien. François Bayrou sera accompagné, vous le savez, de 5 de ses ministres, dont on le disait déjà hier, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Ce déplacement gouvernemental aura forcément une teneur très politique pour François Bayrou, qui est, il faut bien le reconnaître, dans la tourmente depuis sa nomination il y a 15 jours. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
François Bayrou veut se montrer présent sur le terrain aux côtés des Mahorais. Alors qu'il avait suscité la polémique en donnant l'impression de privilégier le conseil municipal de Pau à la gestion de la crise à Mayotte, le nouveau Premier ministre est attendu de pied ferme par les habitants de l'île. Des collectifs de citoyens réclament d'ores et déjà des réponses concrètes à l'occasion de sa visite. Une visite d'une journée en tout durant laquelle le chef du gouvernement s'est engagé à tenter d'apporter des solutions concrètes sur les questions d'éducation, de santé et d'habitat. Il faut dire que les attentes des populations sur place sont partagées par les oppositions. Ainsi, le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, cherche à faire pression sur le Premier ministre et rappelle qu'il attend des actes. En clair, cette visite représente une véritable épreuve du feu pour François Bayrou, dont le gouvernement travaille d'ores et déjà sur une loi spéciale, une loi présentée dès le 3 janvier lors du premier Conseil des ministres et qui sera consacrée à la reconstruction de l'archipel, avec plusieurs mesures comme une adaptation des règles d'urbanisme et de construction, mais aussi des dispositifs exceptionnels pour aider les collectivités, l'emploi ou encore les entreprises.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Sur place à Mayotte, l'attente est devenue insupportable pour les Mahorais qui demandent des moyens supplémentaires. Écoutez François Nouchet, il est professeur dans un lycée de Mayotte.
Ce qu'on attend d'abord au niveau de l'éducation nationale, d'abord, c'est de mettre en place rapidement des solutions pour que la rentrée puisse avoir lieu le 13 janvier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et au niveau économiquement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées. Il y a des entreprises qui sont 22 ans sur le territoire, sont carrément mortes. Les entreprises sont tombées et ces entreprises sont obligées de libérer le personnel. Les personnes sont en chômage technique. Le réveillon et le nouvel an, les personnes ne connaissent même pas ça parce qu'ils sont en chômage technique. Le temps de faire les papiers pour toucher le chômage, vous imaginez, ils n'ont plus rien. Le fonds de roulement n'existe même plus. Ils ne savent même pas comment faire pour payer les salariés. Ils ont dit seulement aux salariés, vous rentrez chez vous à la maison et occupez-vous de vos familles, on verra plus tard.
François Nouchet, professeur dans un lycée de Mayotte, propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. J'ajoute qu'en marge de ce déplacement à Mayotte, le Premier ministre a signé une circulaire afin de recenser les besoins des fonctionnaires à Mayotte. Le Premier ministre veut inciter les agents à rester dans l'archipel afin de garantir la continuité de l'action de l'État. Le dernier bilan humain du passage du cyclone Chido il y a 15 jours à Mayotte fait état de 39 morts et de 4000 blessés. Un bilan qui reste bien évidemment pour le moment provisoire. Et puis autre déplacement ministériel annoncé, celui des ministres des Armées et des Affaires étrangères, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot. Ils se rendront en début de semaine au Liban, où ils rencontreront notamment les militaires de la FINUL, la force intermédiaire des Nations Unies au Liban. Il est 7h05, on va marquer une première pause dans le journal dans un instant, l'actualité en Calédonie.
Le quartier Alma est désormais ouvert tous les dimanches de 8h à 12h. En plus de vos enseignes favorites comme Decathlon, la Foire Fouille, Célio et bien d'autres, venez profiter d'un marché avec des animations, un manège pour les enfants et des stands divers et variés. Rendez-vous chaque dimanche matin au quartier Alma, votre destination shopping et détente. Quartier Alma, rue de l'Alma au centre-ville. Plus d'infos sur Facebook.
Mardi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Le Bill Bokeh Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale Saint-Sylvestre sur la page Facebook Le Bill Bokeh Plage.
Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est deux points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, Hi-Fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducose du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Week-end, Lionel Sabot.
Et l'actualité en Calédonie après la chute du 17e gouvernement. C'était mardi dernier et après deux journées particulièrement tendues en fin de semaine au Congrès, les loyalistes et le rassemblement indiquent dans un communiqué publié hier en fin de matinée que l'État n'a pas versé la totalité des 27 milliards d'aides d'urgence promis à la Nouvelle-Calédonie. Michael Gineski.
Le 26 décembre, les loyalistes et le rassemblement ont alerté le Premier ministre sur les graves conséquences du non-versement de cette aide, peut-on lire dans ce communiqué. Un soutien financier crucial qui était conditionné à la mise en œuvre de plusieurs réformes, et notamment celle de la TGC, qui n'a pu être adoptée dans les délais prévus en raison de la chute du gouvernement Mapo. Lors des premières discussions avec l'État, peut-on également lire dans ce communiqué que je cite, il nous avait été indiqué que la totalité des 27 milliards ne serait pas versée. Face à cette annonce, et je cite encore, nous avions immédiatement engagé des actions auprès des plus hautes instances nationales. Ces démarches ont abouti, et je cite de nouveau le communiqué, à une décision de l'État de débloquer 18,4 milliards afin d'éviter la faillite des collectivités calédoniennes dans l'attente de l'installation d'un nouvel exécutif local. Les loyalistes et le rassemblement qui, après avoir remercié le gouvernement national pour cet effort, indiquent qu'il est important, et je cite de nouveau, de souligner qu'en raison d'un blocage politique regrettable, 9 milliards ont été perdus. Ces fonds acquis juste avant la censure du gouvernement Barnier manqueront cruellement pour garantir la pérennité des dispositifs de soutien aux Calédoniens, peut-on lire encore dans ce communiqué. Face à cette situation, écrivent enfin les loyalistes et le rassemblement, nous lançons de nouveau un appel à la responsabilité. Il est impératif de constituer, dans les plus brefs délais, un gouvernement d'intérêt général capable de conduire les réformes nécessaires pour assurer le financement et la viabilité de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation de ce communiqué des groupes les loyalistes et du rassemblement.
Dans l'actualité également, la police qui sera intransigeante face aux mauvais comportements sur les routes. C'est le message des forces de l'ordre durant cette période de fête, Michael.
Les véhicules qui circulent sur les routes, notamment avec des systèmes de sonorisation surpuissants, une mauvaise habitude qui a la vie dure et qui reste interdite. La police nationale avertit, les contrevenants s'exposent à des mesures exemplaires. En ligne de mire, des équipements parfois interdits et aussi des comportements à risque qui se multiplient. Écoutez Marjorie Ghisoli, la nouvelle directrice territoriale de la police nationale.
C'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques temps là, qu'il y a une reprise de conduite et de comportements inappropriés et puis délinquantiel pour certains, et qui pose bien évidemment des problématiques de sécurité routière, mais aussi de bruit et de nuisance. On multiplie les contrôles, on multiplie en soirée et en nuit, non seulement les rappels, mais surtout les interventions, les interpellations, là où certains croient que la route leur appartient et qu'on peut faire du drift, on peut mettre de la sono à fond, sans qu'il n'y ait, je dirais, aucune conséquence. Or, des conséquences, il y en a pour les riverains, il y a des conséquences pour les automobilistes, et c'est vrai que depuis plusieurs jours, eh bien, on fait de l'interpellation, des gardes à vue, on saisit du matériel, bien évidemment sous l'autorité du parquet, eh ben, on poursuit ces conducteurs qui, encore une fois, prennent la route pour leur propriété.
Des systèmes de sonorisation qui font d'une voiture un véhicule à risque sur la route, ainsi que des luminaires qui peuvent s'avérer dangereux. Si customiser son véhicule, comme on dit, n'est pas interdit, le respect du code de la route reste obligatoire.
Customiser, tant que ça respecte les règles, je dirais, et que ça ne pose pas de problème de conduite, nous, ce qui nous impacte, ce sont encore une fois ces, con- conduite dangereuse. Ces véhicules qui ont des grandes sonos qui font un bruit insupportable pour les riverains, quels qu'ils soient. Et puis c'est souvent, malheureusement, accompagné d'une alcoolisation forte. Je rappelle que ce sont des délits de conduire en état d'ébriété, d'avoir des immenses sonos dans les véhicules qui font un bruit insupportable pour les riverains, et que tout ça, sous l'autorité du procureur, ça fait des procédures judiciaires, des poursuites en justice, des passages devant le tribunal, sans oublier qu'on saisit le matériel, qu'on met en fourrière les véhicules qui ne respectent pas les conditions de circulation, confiscation et destruction des matériels qui ont permis de commettre l'infraction. Tout ce qui est, je dirais, contraire au code de la route, parce que les lumières, les sonos, bah, c'est aussi des moyens de décoration pour certains, mais encore une fois, on ne respecte pas les conditions techniques de circulation des véhicules. Et c'est un vrai rappel que nous serons présents pour faire respecter le droit.
Marjorie Ghisoli, la nouvelle directrice territoriale de la police nationale. Les forces de l'ordre sont intervenues sur 4 affaires de ce type en l'espace de seulement 3 jours. Des cas ayant occasionné des gardes à vue. Les contrôles vont donc se multiplier durant les fêtes.
En bref, une enquête ouverte au Mont d'Or et la gendarmerie nationale qui lance un appel à témoins. Des faits de caillassage sont survenus, vous le savez, sur la RP1 à Saint-Louis, au Mont d'Or, le 25 décembre dernier, entre 16h et 17h. Une octogénaire a notamment été blessée à la mâchoire par un projectile. Les forces de l'ordre mettent tout en place pour retrouver le ou les auteurs de ces jets de pierre. Toute personne susceptible d'avoir été victime de ces caillassages ou bien d'avoir des informations est invitée à contacter la gendarmerie en composant le 17 et en demandant à être mise en contact avec la brigade de recherche de Nouméa. Venons-en à l'actualité à l'étranger et les Européens qui soupçonnent la Russie et sa flotte dite fantôme d'être à l'origine du sabotage d'un câble sous-marin qui relie la Finlande et l'Estonie. Cette nuit pour nous, l'Allemagne a même appelé ses partenaires européens à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Il faut dire qu'en mer Baltique, les incidents sur les câbles sous-marins se multiplient. Johan Madec pour Europe 1.
Et à chaque fois ou presque, impossible de dire avec certitude s'il s'agit d'un sabotage intentionnel ou d'un accident. Mais dans les états-majors, on ne veut plus croire au hasard, d'autant plus quand on connaît l'importance de ces câbles, puisque 99% du trafic Internet transite dessus, ainsi que des milliards de dollars de transactions financières tous les jours. Hier, l'OTAN a donc annoncé le renforcement de sa présence dans la mer Baltique. Mais pour surveiller des milliers de kilomètres de câbles efficacement, il faut des drones, des patrouilles maritimes et même de la détection satellitaire, le tout actif en permanence. Et ça représente un défi financier considérable, comme le souligne Cyril Brett, chercheur à l'Institut Delors et auteur d'une note sur la sécurisation de la Baltique.
Il faut tout simplement consacrer plus de ressources en personnel, en argent et en moyens à la protection de ces infrastructures. C'est un défi capacitaire, c'est un défi de quantité, c'est un défi d'investissement pour surveiller et pour dissuader toute atteinte à ces infrastructures critiques.
Le chercheur rappelle aussi que même en dehors de ces attaques, ces câbles tombent souvent en panne, que ce soit à cause du trafic maritime ou à cause de l'hostilité du milieu sous-marin.
Johan Madec du service international d'Europe 1, à l'étranger toujours. Et en bref, après le crash d'un avion au Kazakhstan le jour de Noël, un appareil qui effectuait une liaison entre l'Azerbaïdjan et la Russie, Vladimir Poutine, le président russe, a admis cette nuit pour nous que cette défense anti-aérienne était en action quand l'appareil s'est écrasé. Vladimir Poutine a présenté ses excuses au président azerbaïdjanais. Vladimir Poutine ne reconnaît toutefois pas la responsabilité de la Russie dans cet accident. L'Union européenne demande l'ouverture rapide d'une enquête indépendante. Et puis, l'état d'urgence décrété en Crimée, c'est au sud de l'Ukraine. 2 pétroliers russes se sont échoués dans le détroit de Kerch. Vladimir Poutine reconnaît qu'il s'agit d'une catastrophe écologique. 200 000 tonnes de pétrole brut se seraient échappées des cuves des 2 pétroliers. Il est 7h14, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre dimanche.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Oui, à la une de l'actualité sportive du tennis, c'est le coup d'envoi ce matin du BNC Tennis Open. Le tirage au sort a eu lieu hier soir au Méridien, tirage au sort que vous avez suivi, Léo Fichou.
Eh oui, Lionel, un tirage au sort tout en discrétion dans le hall du Méridien, mais suivi par plusieurs dizaines de personnes, des amateurs de tennis, des familles de joueurs calédoniens, et puis quelques joueurs aussi curieux de connaître leur adversaire au premier tour. C'est Olivier Ledin, le directeur du tournoi, qui a eu la lourde charge d'effectuer ce tirage au sort du tableau principal de simple. On l'écoute.
16, 13... Pas de grosse confrontation directe, si ce n'est peut-être un Brouwers néerlandais contre Tomic. Pourrait déjà être peut-être une petite surprise. Le reste est assez bien réparti, on va dire. Donc les favoris devraient passer au premier tour. On attend avec impatience le match de Heremana à Court sur le Danois. Fuksovic pour un qualifié, Manarino aussi, il me semble. Donc voilà, on va avancer gentiment dans le tableau. Mais en tout cas, le tournoi démarre. On a hâte qu'il démarre finalement.
Et une fois le tirage au sort du tableau principal effectué, place à celui des qualifications. On retrouve notamment le jeune calédonien de 16 ans, Jalan Salin Wilmont, parti depuis un an et demi en métropole pour se perfectionner. Il a obtenu une invitation de la part de l'organisation. Même s'il ne connaît pas son adversaire, l'Australien Cade Birrell, c'est déjà une fierté pour lui de pouvoir participer à ce tournoi international.
C'est un grand honneur de participer à ce tournoi. Franchement, là, c'est que du bonus. Prise d'expérience, voilà. S'amuser et faire du spectacle. Je ne sais pas comment il joue, qui sait, donc je vais regarder un peu sur internet et je pense je vais jouer mon jeu, il me donne un fond et voilà, on verra. Bah, je suis assez agressif, gros service et mener le jeu.
Et on le disait aussi, du coup, il y aura le double.
Avec Benoît Père, oui. Franchement, j'ai beaucoup de chance de jouer avec lui. Et c'est une prise d'expérience et c'est fou. Ouais. J'adore.
Jalan Salin Wilmont, donc qui jouera sur le court Warano Ngodrela en deuxième rotation, et c'est une fierté qui est partagée par sa maman Laetitia.
Ah oui, là c'est vraiment un honneur qu'il puisse participer, on est tous contents parce que chaque fois on vient regarder les joueurs chaque année, et là cette année se dire qu'il sera sur les terrains, c'est trop bien. Puis ensuite voilà, le double avec Benoît Paire, excellent, c'est un rêve, c'est franchement une chance pour lui, on est trop contents, on est trop fiers et... Il va s'éclater, on lui a dit de toute façon, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, donc amuse-toi et éclate-toi, et nous on sera là pour te supporter. Trop bien.
Et le rendez-vous est donné dès 10h30 sur les terrains du Wentoro pour les premiers matchs de qualification.
L'actualité de la voile dans la région, elle a Sydney Hobart qui continue au large de l'Australie, et on suit attentivement le parcours de l'équipage calédonien à bord de Pulpito, Michael Juneski.
Oui, déjà plus de 30 abandons dans cette course difficile, deux navigateurs y ont perdu la vie, les calédoniens sur Pulpito MLS SCD poursuivent l'aventure, David Tréguier et son équipage longent actuellement la Tasmanie à 160 000 nautiques de la ligne d'arrivée, soit environ 300 km. Ils sont actuellement 9e au classement IRC3, 2e de la catégorie des Sydney 38. Et puis un autre Calédonien, Philippe Mazard du CNC, fait partie du jury de cette épreuve internationale. Il nous a fait part de son témoignage aux premières loges dans cette course de prestige.
C'est toujours très excitant d'être dans l'organisation et dans le jury de cette Sydney Hobart, parce que ça reste une course magnifique, une course d'envergure, une des plus grandes courses du Pacifique Sud. Course prestigieuse, difficile, et là on l'a vu encore récemment. Il faut un jury pour départager des situations conflictuelles entre des concurrents, ou quelquefois apporter ce qu'on appelle des compensations de temps. Un bateau par exemple qui va se dérouter pour aider un autre bateau qui est en danger, on lui accorde des bonifications de temps en fonction du temps qu'il aura passé à se dérouter et à chercher ou aider quelqu'un en danger.
Philippe Mazard, calédonien présent, savoir qu'il y a un équipage calédonien qui est toujours en course et qui mène d'ailleurs une très belle course. Vous les suivez un peu plus attentivement, on va dire ?
Ah ben je les regarde, oui, je dois pas avoir de parti pris bien sûr, mais je les regarde bien évidemment. Il y a d'ailleurs d'autres équipages français dans la course qui marchent aussi très bien. La course a été dure. Bravo à ces équipages de Nouvelle-Calédonie.
Philippe Mazard du CNC, membre du jury de cette 79e édition de la Rolex Sydney Hobart. Nous en sommes à 2 jours et 17 heures de course.
De la voilà encore, mais cette fois-ci le Vendée Globe 2024 et le duel qui se poursuit en tête de la course, Mickaël.
Désormais, si les choses en restent là, on connaît les deux prétendants à la victoire finale. Johan Richomme sur Paprec Arkea qui conserve un avantage d'environ 117 000 nautiques, soit tout de même 216 km d'avance sur Charlie Dalin à bord de Massif. Les deux skippers remontent l'Amérique du Sud au large de l'Uruguay et du Brésil dans l'océan Atlantique. Le leader est tout de même encore à quelques 9 800 km de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne après déjà plus de 48 jours de course dans ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance.
Allez, retour sur la terre ferme et sur les terrains de rugby puisque l'on joue la 13e journée du top 14.
Et la section paloise qui a remporté un duel de mal classé face aux Bretons de Vannes. Une victoire de Pau sur le score de 48 à 24. Bayonne de son côté l'a emporté face à Castres 33 à 12. Montpellier s'est imposé sur le terrain de Clermont 22 à 18. Un dernier choc en cours ce matin, l'Union Bordeaux-Bègles, leader qui accueille le RC Toulon. Dès demain matin, il y aura 3 nouvelles affiches. Les retrouvailles pour Romain Taufifénois, désormais sous les couleurs du Racing 92. Il accueillera le Lyon Olympique Universitaire, son ancien club, à partir de 2h du matin. À 4h, Perpignan affrontera La Rochelle. Et à 7h05 ce lundi, le duel des stadistes, le Stade Toulousain qui accueillera le Stade Français.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Nicolas.
Oui, alors ce matin, sur le nord-est, des nuages accompagnés de rares ondées s'attarderont en début de matinée. Sur l'extrême sud des marées, le ciel sera passagèrement nuageux. Ailleurs, un beau soleil l'emportera. Sur l'ouest, le vent d'est soufflera de 5 à 10 nœuds, puis des brises de secteur sud de l'ordre de 10 nœuds s'établiront. Ailleurs, l'alizé d'est-sud-est soufflera autour de 10 nœuds en général, localement entre 10 et 15 nœuds sur la pointe nord-est et Bélep. Cet après-midi, des nuages formeront sur le relief en donnant quelques averses, puis ils s'étaleront vers l'est et le nord-ouest. De l'extrême sud à marée, le ciel restera passagèrement nuageux. Sur les autres régions, le soleil sera encore bien présent. Sur le nord-est, l'alizé de sud-est soufflera entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera souvent compris entre 10 et 15 nœuds, mais atteindra localement 15 nœuds. Ce sera sur l'ouest. Les températures maximales évolueront peu, de 28 à 30 degrés en général, localement 30 à 32 degrés. Ce sera sur l'ouest lyonnais.
Merci Nicolas. La fin de ce journal à 7h et pratiquement 23 minutes. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h pour faire un nouveau point sur l'actualité. Excellente matinée, très bon dimanche sur Radio Rythme Bleu.